Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage consacré ce soir au Haut-Karabakh, un an après le déclenchement de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle de cette région. C'était le 27 octobre 2020, les affrontements ont duré 6 semaines, ils ont fait plus de 6500 morts et de nombreux déplacés. Cette guerre s'est finalement conclue sur une importante défaite arménienne. Un cessez-le-feu a été signé sous médiation russe et Erevan a dû céder à l'Azerbaïdjan une partie de la région. Alors un an après, quelle est la situation au Haut-Karabakh ? À quoi ressemble le quotidien des populations dans les territoires passés sous contrôle azerbaïdjanais ? Et où en sont les relations entre les deux pays ? On en parle pendant 20 minutes. Avec notre invité.
27 septembre.
Bonsoir Gaïds Minassian.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des relations internationales et journaliste au Monde, auteur de l'ouvrage Les Sentiers de la Victoire, peut-on encore gagner une guerre, paru aux éditions Passé Composé. Alors d'abord, est-ce que la vie a repris un cours à peu près normal au Haut-Karabakh, un an après, je corrige ce que j'ai dit à l'instant, un an après cette guerre qui a démarré le 27 septembre 2020 et non le 27 octobre?
Pas vraiment. La vie n'a pas vraiment repris son rythme normal, puisqu'il y a toujours une menace sur la ligne de front entre donc les Arméniens de la province du Karabakh et les premières lignes de l'armée azerbaïdjanaise. Il y a une force d'interposition qui se compose uniquement d'un contingent russe, environ 1500-2000 soldats, parce qu'il y a des techniciens russes pour remettre sur pied les infrastructures. Donc on compte à peu près une présence russe autour de, certes, les chiffres les plus élevés disent 8 à 10 000 russes. Je pense que c'est un peu moins quand même, on va dire 4 à 5 000. Mais la vie n'a pas repris son cours. Il y a de temps en temps des menaces de plus en plus fortes d'ailleurs. Sur la ligne de front, il y a encore eu au sud de l'Arménie, des incidents, des échanges de tirs. Il y a eu un blessé du côté arménien aujourd'hui. Donc la population de la province du Karabakh, donc autoproclamée en république d'Artsakh, vit encore, est encore dans une forme de cauchemar. Pas aussi profond, pas aussi fort qu'il y a un an, comme vous pouvez l'imaginer, mais on ne voit pas encore le bout du tunnel. On espère une paix durable. Mais c'est très difficile parce que le président de l'Azerbaïdjan, Heydar Aliyev, veut transformer sa victoire militaire en victoire politique. Mais il n'y arrive pas et il ne peut pas y arriver. Et parce que les conditions sont très loin d'être réunies et que personne ne veut lui donner ce cadeau d'une victoire politique. Et donc il y a d'un côté l'amertume, l'aigreur, la colère du côté et la tristesse du côté arménien et de l'autre côté, du côté de l'Azerbaïdjan, il y a une forme de frustration.
Concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis la reprise de ces territoires par l'Azerbaïdjan ? Comment est-ce qu'elle se traduit, cette présence ? Est-ce qu'il y a des soldats azerbaïdjanais qui patrouillent partout ? Comment est-ce que ça se manifeste ?
Eh bien, avant, la province du Karabakh, avec les territoires environnants, était totalement adossée à l'Arménie. Donc, il n'y avait aucun problème de frontière, aucun problème de délimitation entre la République d'Arménie et ce qu'on appelle le Karabakh. Et depuis la victoire militaire de l'Azerbaïdjan, 70% des territoires sous contrôle des Arméniens du Karabakh sont passés du côté de l'Azerbaïdjan. Et là, il y a eu comme ça un flux, de marchandises, de soldats, d'équipements militaires de l'Azerbaïdjan. Et on voit sans cesse maintenant de plus en plus de trafic routier, marchandises, installations militaires aux portes de l'Arménie qui est reliée au Karabakh grâce à un cordon qu'on appelle le couloir de la Chine qui est à peu près large de quelques kilomètres, 5-6 kilomètres, pas plus. Et les Azerbaïdjanais veulent absolument consolider leur victoire militaire en essayant de réimplanter des unités, de défense dans ces territoires nouvellement libérés, afin de geler le front et d'empêcher les Arméniens, éventuellement, de reprendre le chemin de la guerre ou des combats, quoi.
Alors, au moment de la guerre de l'automne dernier, il y a de nombreux Arméniens qui ont fui en constatant justement la déroute de leur armée. D'autres ont fait le choix de rester sur place au Karabakh. C'est le cas de cet homme dont on va tout de suite écouter le témoignage. Il s'appelle Armen, il habite à Latchin, à l'ouest du Haut-Karabakh. Il nous expliquait en décembre dernier son choix de rester sur place.
Au début, les relations ne seront pas bonnes avec les voisins, mais avec le temps, on finira par s'habituer et on finira par avoir des contacts avec eux. Je ne voulais pas que cela se produise, mais je devrais m'y faire. Je considère que c'est ma terre et je veux vivre ici. Beaucoup sont partis, ils ont perdu la foi, mais moi, je crois que tout va bien se passer.
Voilà, on l'entend dire, moi je crois que tout va bien se passer. Guides Mination, comment se passe aujourd'hui concrètement la cohabitation entre les Azerbaïdjanais et les Arméniens dans ces territoires du Haut-Karabakh qui sont repassés sous contrôle de Bakou?
À cette heure-ci, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cohabitation, il n'y a pas de contact. Le citoyen qui vient de parler sur la Chine le dit lui-même. Il dit, pour l'instant ça va et on espère peut-être demain des contacts, mais pour l'instant il n'y en a pas. Il y a les quelques civils qui se sont installés du côté de l'Azerbaïdjan. D'abord, c'est tout récent. Les Azerbaïdjanais, pardon, pour des raisons de sécurité, disent que tant que l'espace n'est pas déminé, c'est très difficile d'imaginer un retour important des populations. Il y a eu la construction un peu à la va-vite d'un aéroport par l'Azerbaïdjan dans la ville de Fizouli. En fait, et la ville de Chouchi pour les Arméniens, Choucha pour les Azerbaïdjanais, qui est à l'intérieur même de la province, qui surplombe la capitale Stepanakert, a été décrétée capitale culturelle de l'Azerbaïdjan parce que le président Aliyev s'y est rendu 2-3 fois depuis la prise de Chouchi en novembre 2020. Donc, pas de contact pour l'instant. Les seuls contacts qui existent, c'est des contacts militaires, des contacts armés. Et ça donne des morts de chaque côté. Et donc, c'est pas... Mais globalement, le cessez-le-feu est respecté, observé. Et le contingent russe accomplit un travail assez important pour justement stabiliser la situation. Parce que personne n'a intérêt à se retrouver devant des armes russes, quoi. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pour l'Azerbaïdjan, c'est plutôt calme.
Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des Arméniens qui sont de retour sur place?
Alors, juste après la guerre, donc à partir du 9-10 novembre 2020, il y a eu effectivement un retour en masse. Il y avait à peu près 50 000 Arméniens du Karabakh qui s'étaient déplacés vers l'Arménie. Et près de 30-35 000 sont retournés, même un peu plus d'ailleurs, sont retournés en chez eux. Mais ceux qui sont restés en Arménie, ce sont ceux qui sont originaires des territoires. Alors, du Karabakh, sous contrôle aujourd'hui de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire ce que les Arméniens appellent la zone occupée. Il y a la zone libre, où il y a les autorités du Karabakh, donc Stepanakert en est la capitale, et vous avez la zone occupée, qui se compose essentiellement de deux régions, la ville et la région de Chouchi, et puis la ville d'Adrout, au sud.
Guides Mination, je voudrais qu'on revienne sur ces soldats russes de maintien de la paix qui ont été donc déployés au Karabakh pour une durée a priori de 5 ans. Leur mandat reste un petit peu flou aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée précise de leur mission, des activités qu'ils mènent dans la zone?
Alors, en ce qui concerne le mandat, effectivement, c'est 5 ans renouvelables. Ça fait déjà 1 an. Le commandant a changé, là. L'ancien est parti, le nouveau est arrivé. Le mandat est simple, stabiliser, empêcher que les armes parlent à nouveau, assurer une forme de retour à une vie quotidienne, donc retour et rééquipement des infrastructures. Un travail de déminage très important parce que toute la zone est minée, et puis une manière aussi de montrer à la communauté internationale et aux pays voisins en particulier que la Russie a marqué son retour dans la région. Mais je tiens à préciser que même si la Russie est en Géorgie, en Abkhazie-Ossétie et en Arménie avec une base au nord de l'Arménie, elle est maintenant présente sur ce que l'Azerbaïdjan dit, c'est mon territoire, donc le Karabakh. Mais ce n'est pas un acte de puissance, je pense. Je pense que dans cette guerre, la Russie a plutôt manifesté sa faiblesse. Parce qu'elle est maintenant contrainte de co-gérer la question du Karabakh, d'une manière ou d'une autre, avec la Turquie, qui, elle, après avoir allumé des feux en Libye, en Syrie, en a allumé un avec l'Azerbaïdjan, et a contraint donc la Russie à partager le fardeau du Karabakh. La véritable question derrière cette guerre du Karabakh, si vous me permettez, c'est en fait l'idée du désenclavement. Comment va se rouvrir l'ensemble du Caucase et qui va dominer ces différentes, je dirais, routes qui vont s'ouvrir à droite à gauche, c'est-à-dire au nord avec l'Iran, à l'ouest avec la Turquie, au sud avec l'Iran, à l'ouest avec la Turquie, à l'est avec la Caspienne et puis la Chine derrière. Donc qui va dominer cet espace stratégique important pour les voies de communication? Parce que juste un petit exemple, à partir de l'Iran, on peut d'un côté gagner au sud l'Indo-Pacifique, et on sait ce que ça coûte aujourd'hui l'Indo-Pacifique, et de l'autre côté, vous avez accès par le nord de l'Iran à la mer Noire, donc l'Europe. Et ça vous permet d'éviter le golfe Persique, le canal de Suez et tout le continent africain. Donc on gagne beaucoup de temps, d'argent, quand on passe de l'Iran à l'Europe via le Caucase.
Pour revenir sur la présence des Russes au Haut-Karabakh, ce sont eux aujourd'hui qui tiennent les checkpoints. Et votre journal Le Monde a publié un article très intéressant sur le sujet, expliquant que les Russes bloquaient l'accès à cette région aux journalistes. Comment est-ce que vous l'analysez? Comment est-ce que vous l'expliquez? Pourquoi est-ce que les Russes, a priori, n'ont pas intérêt à ce que des journalistes étrangers se rendent dans la zone?
Je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, c'est dans la mentalité russe. Une fois qu'on occupe un terrain militaire, on n'aime pas trop voir des étrangers. Souvent, eux, par paranoïa, ils peuvent y voir d'ailleurs des agents. Deuxièmement, je pense que c'est aussi vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, histoire de montrer que les choses peuvent changer, que dorénavant, on respecte, entre guillemets, l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Et puis, c'est une manière aussi de dire à tout le monde que maintenant que les Russes sont là, il faudra faire avec, et pour longtemps.
Je voudrais, Gaïd Zmination, qu'on revienne sur la politique également menée par Bakou, donc les autorités azerbaïdjanaises dans ces territoires qu'ils ont repris à l'Arménie. Quelles ont été les premières actions menées dans la zone? Quels sont les premiers chantiers prioritaires affichés?
D'abord, c'est le chantage. Le premier chantier, ça a été le chantage. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, alors les Arméniens disent 125 prisonniers de guerre, dans les prisons qui moisissent, dans les prisons qui pourrissent, dans les prisons en Azerbaïdjan. La communauté internationale s'est mobilisée pour exiger la libération. On est à deux doigts de sanctions, notamment du côté américain et du côté de Conseil de l'Europe. Mais premièrement, donc, c'est ça. Et pourquoi je dis le chantage? Parce que c'est lié au chantier. Les Azerbaïdjanais disent « nous, on veut les cartes ». D'installation des mines pour pouvoir lancer le déminage. Mais si on a ces cartes, en échange, on pourra libérer petit à petit par grappe des prisonniers. Donc les Arméniens ont déjà donné des cartes et des listes d'endroits à déminer. Mais les Azéris en sont mécontents. Ils considèrent qu'il y a encore des accidents et ils considèrent que dans ces conditions, on ne peut pas imaginer la libération totale. Donc, premièrement, déminage. Alors, chantage, déminage. Deuxièmement, reconstruction des infrastructures. Je vous ai parlé d'un aéroport, mais aussi des routes. On veut relancer les voies de communication pour finalement intégrer le Karabakh et les territoires autour du Karabakh à la métropole, c'est-à-dire au centre du pouvoir. Plus cette région sera intégrée, plus il sera facile pour Bakou d'acheminer hommes et équipements.
Vous parlez des infrastructures, il y a effectivement toute cette question du patrimoine, puisque les deux pays s'accusent aujourd'hui mutuellement de destruction de patrimoine, en ce qui concerne par exemple les églises arméniennes et les mosquées azerbaïdjanaises. Quelle est la politique de l'Azerbaïdjan sur le sujet? Est-ce qu'ils sont dans une démarche de reconstruction uniquement de leur patrimoine, des mosquées par exemple, ou est-ce qu'ils cherchent aussi à reconstruire ce qui correspond au patrimoine de ces 30 dernières années arméniens?
Alors, je sais que le gouvernement français a fait en sorte d'insister sur la rénovation du patrimoine chrétien, religieux arménien dans les territoires sous contrôle de l'Azerbaïdjan. Et qu'une mission de l'UNESCO, d'ailleurs, est plus ou moins mobilisée, plus ou moins appelée à intervenir, à se rendre dans la région. Mais il y a toujours cette question de sécurité Et l'Azerbaïdjan insiste là-dessus en disant on ne peut pas assurer votre sécurité puisqu'on n'a pas encore déminé l'ensemble de la région pour pouvoir lancer cette mission. Donc on est encore, enfin, la communauté internationale, la communauté culturelle, j'ai envie de dire, est plutôt suspendue à un feu vert de Bakou pour la rénovation, au moins pour l'inventaire des lieux religieux à protéger, à rénover. Les Arméniens ont peur effectivement de voir leur patrimoine culturel partir en fumée, de la même manière qu'ils ont vu ce patrimoine culturel partir en fumée dans les années 2000, mais même avant, dans la province du Nakhitchevan, qui est au sud de l'Arménie, qui est sous contrôle de l'Azerbaïdjan. Et donc, on veut éviter justement le précédent du Nakhitchevan au Karabakh.
Se pose aussi évidemment la question de toutes ces personnes, elles sont 600 000 hein, si je ne me trompe pas, qui avaient été expulsées de la région par l'Arménie au moment de la première guerre du Karabakh dans les années 90. Je voudrais qu'on écoute un témoignage d'un Azerbaïdjanais justement, et on commentera juste après. Il réagissait en novembre dernier à l'entrée donc des troupes azerbaïdjanaises dans la zone de Kelbajar. C'était la première fois hein, depuis 27 ans que ces soldats pénétraient dans la zone. Énorme émotion, donc, on s'en doute, des anciens habitants de la ville qui avaient été chassés par l'Arménie dans les années 90. On écoute tout de suite ce monsieur.
Je suis un déplacé de Kelbajar et maintenant j'ai 71 ans. Je ne peux pas oublier ma jeunesse, les jours que j'ai passés là-bas. Ces montagnes, mon métier. Je travaillais dans une cantine scolaire et j'étais si heureux. Merci, merci à l'armée, merci au commandant en chef d'avoir libéré nos territoires. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai vécu là-bas pendant 43 ans et je veux y retourner le plus tôt possible, j'espère.
Gaïd Zimination, est-ce que les autorités azerbaïdjanaises ont mis en place une politique d'accueil de ces déplacés ?
Alors, c'est en cours. Le gouvernement azerbaïdjanais voudrait absolument, et bien entendu, et on peut le comprendre, voudrait absolument que ces territoires soient de nouveau investis par une population azerbaïdjanaise. Or, il y a des problèmes de sécurité. Et beaucoup d'Azéris refusent de quitter Bakou, les grandes villes à l'est, pour justement... D'abord pour des raisons de sécurité et ensuite pour y faire quoi ? Parce qu'il n'y a rien encore. Je veux dire, c'est encore le vide total. Je veux dire, ces villes ont disparu. Donc il faut remettre sur pied des infrastructures et ça passe par des routes d'abord et surtout le déminage. Donc c'est trop tôt encore pour Bakou et pour ses populations. Le gouvernement azerbaïdjanais menace de retirer à ces populations qui seraient réfractaires ou hostiles à retourner dans leur territoire d'origine, de les priver de leur droit de réfugiés, de déplacés plutôt. Et donc, on est dans une situation qui est totalement suspendue au retour de la sécurité au sens large dans la région. Et permettez-moi d'ailleurs de rebondir sur ce que dit ce témoignage, enfin ce témoin, c'est qu'en fait la vraie question dans cette affaire, au-delà de la géopolitique classique. La vraie question, c'est comment démocratiser les sociétés, comment démocratiser les nations ? Parce qu'on a affaire à deux nationalismes qui s'affrontent. Et tant que les États n'auront pas démocratisé leurs institutions, leur façon de faire, on en sera à se regarder encore comme l'Allemagne et la France pendant des décennies.
Et en quelques mots, il nous reste 30 secondes pour conclure, Gaïd Zimination. Est-ce que la réconciliation vous semble possible entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ?
Dans l'état actuel des choses, non. Tant que les prisonniers ne sont pas retournés, tant qu'il n'y a pas des signes de part et d'autre de bonne volonté, je ne vois pas comment on peut imaginer aujourd'hui. C'est regrettable. Et encore une fois, pourquoi ? Parce que les nationalismes sont totalement intégrés et irriguent les mentalités dans cette zone-là. Pourquoi ? Parce que c'est une ancienne zone impériale.
Merci beaucoup, Gaïd Zimination. C'était le décryptage du jour. Merci d'avoir été en direct avec nous. Décryptage revient demain à la même heure.
Bonjour, c'est Juan Gomez.